Bienvenue sur 1, 2, 3 Cocktails, le podcast qui mélange tous les ingrédients pour booster ta crédibilité en ligne et faire briller ton site internet comme jamais. Je suis Christine, correctrice web, et je t'aide à avoir un site qui renvoie une image professionnelle. Ici, on mélange conseils d'expertes, astuces pratiques et discussions inspirantes pour que ton site devienne ta meilleure carte de visite. Toutes les deux semaines, je reçois une nouvelle experte qui ajoute un nouvel ingrédient au cocktail pour que tu aies tout ce qu'il te faut pour que ton site inspire confiance et incite tes visiteurs à passer à l'action. Mon invité te livre son savoir-faire et te donne des actions concrètes à mettre en place. Le shaker est prêt, installe-toi confortablement et embarque avec moi pour un nouvel ingrédient qui va booster la crédibilité de ton site. 1, 2, 3, c'est parti! Salut et bienvenue dans l'épisode 17 d'un, deux, trois cocktails. Alors, après une quinzaine d'épisodes dans lesquels mes invités et moi aussi t'avons donné des conseils, des actions concrètes pour avoir un site web professionnel qui met tes visiteurs en confiance, je me suis dit que ce serait bien de recevoir quelqu'un pour te donner des stratégies pour amener des visiteurs sur ton site. Parce que c'est bien d'avoir un site web optimisé, mais encore faut-il qu'il soit visité, c'est quand même ça le but, c'est qu'il y ait des gens qui voient notre site web. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois Mélanie. Bonjour Mélanie, comment vas-tu?
Bonjour, ça va très bien, merci. Merci de l'invitation.
Je suis super contente de te recevoir, puis je suis contente que tu sois là pour clôturer en fait la première saison d'un, deux, trois cocktails, parce que oui, c'est le dernier épisode de la saison, puis je trouve que le thème d'aujourd'hui vient vraiment boucler la boucle en fait. Donc je suis vraiment contente de t'avoir avec moi ce matin.
Tout à fait. Ça fait très cocktail festif. J'aime ça.
Oui.
Et tu gardes pour la fin.
Oui, c'est ça. On aurait pu avoir un cocktail dans les mains.
Ben oui.
Faire chin à la fin. Donc, je vais te laisser te présenter pour commencer, nous dire qui tu es. Donc, qui es-tu? Dis-nous, Mélanie.
Alors, bien sûr, Mélanie Allé, je suis stratège en marketing numérique depuis, en fait, à mon compte, depuis 2019. Donc, maintenant 6 ans. Et en fait, ben moi, ce que j'aime le plus et ce dans quoi je me suis spécialisée, c'est au niveau vraiment du marketing de contenu. Avec le temps, avec tous les pivots que la pandémie nous a amenés à prendre, ben j'ai vraiment voulu développer un modèle d'affaires aussi basé sur l'accompagnement, sur le coaching au niveau des solopreneurs de services. C'est la majorité de ma clientèle, même si j'ai d'autres petites antennes dans d'autres secteurs. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment aider les solopreneurs à vraiment clarifier leur stratégie. Souvent, c'est chaotique, le nombre d'idées. Comme entrepreneur, on le sait, on est comme des gens créatifs, on aime ça, on a 12 millions d'idées à la seconde, mais ça vient vite très chaotique, ça vient vite messy, comme on dit en anglais, puis c'est tout sauf stratégique de rester dans cet état de chaos. Donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment de transformer cet état chaotique-là en une stratégie qui est plus alignée, qui est plus respectueuse aussi de son énergie, de son temps, parce que ça, on l'oublie beaucoup comme entrepreneur. Tout ça pour créer vraiment un écosystème de contenu qui est plus stratégique, puis qui va nous aider finalement à attirer les bons clients, les clients qu'on de cœur, ceux qu'on aime servir. Donc, c'est vraiment de voir à ce que le marketing puis la stratégie deviennent vraiment plus un levier plutôt qu'une espèce d'affaire anxiogène qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Là.
C'est vrai que ça peut être anxiogène,
oui. Oui, vraiment. C'est fou le nombre de gens qui ont l'impression aussi de jamais faire la bonne affaire, de jamais être aligné sur les bons objectifs ou de se perdre en cours de route. Fait que moi, j'aime bien développer aussi des outils, des formations et de l'accompagnement pour arriver à le faire.
Oui, d'être stratégique puis d'être structuré aussi pour savoir où on va, pas partir dans tous les sens.
C'est ça, puis pas dans l'extrême non plus. Tu sais, je suis pas une fille, ceux qui me connaissent, oui, j'aime la structure, puis je pense que je dégage l'image de ça, mais je suis pas une fille aussi, tu sais, carrée à 100%. Tu sais, j'aime explorer aussi m'amuser un peu dans les formats. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre structure et intuition.
Mm-hmm. Oui, puis il y a autant de façons de faire que d'entrepreneurs. On est tous différents, donc oui. Bon, ben super. Je sens que tu vas nous donner des bonnes stratégies marketing ce matin. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est bien d'avoir un beau site web qui fonctionne bien au niveau d'avoir des belles offres, d'avoir des boutons d'appel à l'action comme il faut, etc. Tout est prêt, mais après, si on le laisse dormir, si on attend que les visiteurs viennent sur notre site un peu par hasard, ben ça sert à rien. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre en place des stratégies pour amener les visiteurs sur notre site. Il y a des stratégies
gratuites, il y a des stratégies payantes. Donc, on va commencer par les stratégies gratuites, dites organiques. Est-ce que tu peux nous en nommer quelques-unes, s'il te plaît?
Bien, en fait, pour moi, l'organique, ça se recoupe, je te dirais, en deux grandes catégories ultimement, qui est ben, tout ce qui est le contenu numérique, en fait, tout ce qu'on crée sur différentes plateformes et qui vont amener finalement les gens à notre site web. Et aussi, je fais une petite parenthèse, là, mais des fois aussi, c'est de comprendre que quand je parle d'écosystème, c'est que l'un va souvent communiquer avec l'autre. Mmh. Et des fois, je vois certains sites web, d'ailleurs, qui n'ont pas de lien vers les réseaux sociaux. Puis je trouve ça un peu triste parce que ça va aussi dans les deux sens. T'sais. On a quand même une plateforme pour communiquer qui sont les réseaux sociaux. Fait que si jamais vous n'avez pas mis vos icônes pour qu'on visite, c'est un bon truc. Mais en termes d'amener le trafic sur notre site web, ben il y a tout le contenu qu'on crée en ligne. Donc, tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux, par exemple, sur d'autres plateformes, si vous avez été invité, par exemple, sur un podcast, mais souvent, votre site web va être référencé sur le site maître, là, celui qui reçoit le contenu principal. Et ça, c'est toutes des petites traces qu'on laisse, si on veut, en ligne, qui amènent justement vers notre site web. Puis au niveau du contenu réseaux sociaux, bien, c'est sûr que si on utilise stratégiquement notre contenu de sorte à amener les gens à prendre une action via notre site web et qu'on, en fait, souvent, c'est des fois, je me rends compte, les gens oublient de mettre des appels à l'action ou oublient d'avoir une espèce d'étape parce que c'est beau liker, commenter, partager, c'est le fun, mais des fois, quand on est plus dans une étape de conversion ou même juste d'amener, des fois, ça peut être convertir vers du gratuit, hein, tu sais, un article de blog, une ressource, ben il faut prendre disons, le temps, la balle au bon de vraiment amener les gens à visiter notre site web. Fait que ça peut se faire de plusieurs façons aussi, tu sais, sur les réseaux sociaux. Si on pense à notre arbre à lien, par exemple, là, les Linktree, BioSite et tout de ce monde, ben il faut qu'il y ait un lien direct avec les ressources qui sont sur notre site web. Puis on peut même créer finalement ce lien-là, cet arbre à lien directement avec notre site web. Dépendamment des plateformes que vous avez, des fois, c'est super simple à mettre en place. Donc, c'est vraiment de penser en termes de comment je peux faire pour que mes autres plateformes puissent mener vers mon site web. Donc, qu'est-ce que je dois avoir en place? Tu sais, par exemple, si on parle d'outils gratuits, ben pourquoi ils ne seraient pas hébergés aussi sur notre site web? Pourquoi on ne pourrait pas faire un lien aussi avec nos articles de blog et s'assurer d'en parler sur nos réseaux sociaux? Donc, ça, c'est la première chose. Pour moi, le premier volet, c'est vraiment d'avoir du contenu de qualité qui va, en fait, donner de la valeur justement aux clients qu'on veut servir, qui répond à leurs vraies questions, les questions qu'ils se posent, les informations qu'ils veulent avoir pour ensuite les amener à prendre action puis à visiter notre site web. Le deuxième volet que je voulais aborder, ben c'est tout ce qui a trait au référencement naturel. Tu sais, quand on parle de référencement SEO, ça, c'est une stratégie qui est gratuite, qui est tellement, comment dire, sous-estimée comme stratégie. Oui, c'est gratuit, mais bon, tu le sais sans doute, hein, c'est faut investir notre temps.
Donc, oui, c'est ce que j'allais dire, peut-être que les gens le font moins parce qu'effectivement, peut-être ça leur fait peur un peu, puis c'est du temps, comme tu dis, puis un peu de connaissance aussi quand même.
Ben c'est souvent ça en marketing. Hein. Les stratégies qui sont les moins coûteuses prennent plus de connaissances et de temps, ou sinon, ben on va dans quelque chose de payant qui va demander un peu moins de temps, mais encore là, c'est pas garanti parce qu'il y a des choses aussi à mettre en place là. Mais ce que je veux dire au niveau du SEO, c'est que ben tous les efforts qu'on met à créer notre contenu sur notre site web, sur nos articles de blog. Ben des fois, c'est des petites micro-actions qui peuvent faire toute la différence. Tu sais, c'est d'aller voir, même sur des sites, parce que quand on parle de SEO, il y a beaucoup de plateformes qui sont payantes pour aller voir les volumes de recherche, pour aller voir c'est quoi les mots-clés dans notre industrie. Et sans tomber dans ces frais-là, il existe quand même quelques outils aussi en ligne où on peut se débrouiller, tu sais, gratuitement pour aller voir ben c'est quoi les termes de recherche. Puis même, on peut faire l'exercice d'aller sur des moteurs de recherche comme Google, comme YouTube. Même TikTok est devenu un très gros moteur de recherche. Et juste de voir dans notre industrie, c'est quoi que les gens recherchent comme expression. Et ça, c'est vraiment des indicateurs de contenu pour nous à créer qui va pouvoir rapidement se classer là, dans les termes de recherche. Fait que des fois, c'est juste de prendre la peine de chercher, est-ce que mon article de blog, je peux pas le tweaker, l'arranger pour que l'angle réponde un peu plus à des termes SEO. Des fois, on va être tellement originaux qu'on utilise des termes qui nous sont propres, nos propres expressions, mais on oublie d'intégrer du référencement naturel. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de dire, ben, est-ce que je peux renommer mes photos pour intégrer des mots-clés? Est-ce que je peux ajouter des balises alt aussi qui incluent les mots-clés? Est-ce qu'au niveau des balises, tu sais, là, je rentrais pas dans le full technique, là, mais, tu sais, allez voir, il y a plein de ressources gratuites là, là-dessus. Ouais.
Revoir son titre aussi, des fois, on pense qu'on a un super titre accrocheur, mais finalement, ça va accrocher personne parce que c'est pas ça qu'ils recherchent.
Exact. Fait que, tu sais, là, je parle d'SEO principalement pour que notre site ressorte, mais le SEO, maintenant, on le sait que ça s'étend aux réseaux sociaux même. Donc, tu sais, si on veut aussi que nos contenus réseaux sociaux soient trouvés plus facilement, ben il faut penser à qu'est-ce que les gens recherchent quand ils vont sur les réseaux, surtout en termes de contenu plus éducatif. Tu sais, les gens vont pas nécessairement chercher, mais dans ma perspective, ils vont pas vraiment chercher des phrases inspirantes ou des parcours inspirants. Yeah. Par contre, ils vont chercher comment faire une recette sans gluten ou, tu sais, pour les enfants et tout ça. Donc, c'est de voir comment on peut changer peut-être notre structure au niveau du contenu qui est en ligne.
Mm-hmm. Mais le SEO, on en a parlé dans des épisodes, justement, du podcast. C'est sûr que c'est important quand on a un site web de se pencher sur cette affaire-là, le SEO, ouais, parce que ça peut vraiment nous aider à être trouvé, à être plus visible, ouais. Vraiment.
Exact. Fait que si on ne le pense pas nécessairement toujours quand on veut créer du contenu, tu sais, de valeur, on va dire, bon, ben, je vais rédiger de ma perspective avec mes connaissances. Puis, tu sais, ce qui est intéressant aussi avec le contenu qu'on met sur notre site web, comme par exemple le blog, ben, comment on peut faire pour. Parce que ça, c'est le défi. Autant avec le podcast, tu dois sans doute l'avoir marqué aussi, là. Le défi avec les contenus longs, que ce soit YouTube, que ce soit le podcast, que ce soit le blog, le défi, c'est d'en parler et de le promouvoir sur nos plateformes de réseaux sociaux. Mmh. Puis des fois, on se contente juste, tu sais, par exemple pour le blog, on va se contenter juste de faire un petit pause puis de mettre le lien URL puis dire « nouvel article de blog ». Mais tu sais, c'est pas suffisant, je pense, pour que les gens aient envie de cliquer pour justement se rendre sur votre site web. Mmh.
Ben justement, on parle là des publications, les réseaux sociaux, tu en as parlé comme stratégie, on peut pas passer à côté. Est-ce que tu penses qu'il y a un type de contenu qui fonctionne mieux pour donner envie aux gens d'aller visiter notre site? Et aussi, est-ce que lorsqu'on fait une publication, il y a une façon de la structurer pour maximiser l'engagement, pour inciter au clic vers notre site?
Ben, en fait, je te dirais qu'un des premiers principes, tu sais, que ce soit en contenu ou tu sais en marketing général au niveau des communications, c'est tu sais la fameuse phrase qu'on dit en anglais "What's in it for me". De penser qu'est-ce qui est intéressant pour notre cible, pour les gens à qui on communique. Et souvent, tu sais, on va écrire même nos publications des fois trop dans notre perspective à nous. Mm-hmm. Puis l'idée, c'est de changer de perspective pour vraiment parler dans parler aux besoins réels de notre cible. Donc ça, c'est une première chose. C'est qu'est-ce qui ferait en sorte que la personne à qui je m'adresse va avoir le goût de cliquer, va avoir le goût de se rendre pour lire mon article de blog. Donc, des fois, c'est intuitif. Des fois, vous allez me dire, ben, je ne sais pas trop. Mais c'est que dans la valeur aussi qu'on apporte au niveau de l'article de blog, on le sait comment concrètement on peut aider. On sait que il y a une raison pourquoi vous avez créé tel ou tel pièces de contenu plus long qui est sur votre site web, ou par exemple, là, je parle de blog, mais ça peut être aussi votre gratuité, ça peut être les informations sur vos offres aussi, là, si on tombe dans du plus promotionnel. Mais c'est de comprendre, en fait, c'est quoi le bénéfice concret pour les gens d'aller directement sur votre site web retrouver l'info. Donc, ça part de vraiment identifier justement ce besoin-là, mais en termes de structure, bien, c'est sûr que, comme je disais tantôt, tu sais, une publication où je te dis nouvel article de blog sur tel sujet, clique ici pour le lire. Je sais pas pour toi, mais moi, ça pique pas tant ma curiosité. Ça m'en dit pas tant et ça vient pas me chercher dans ma volonté de m'abreuver de connaissances ou d'assouvir ma curiosité. Hein? Parce que souvent, les gens, c'est ça qu'ils recherchent. Ils cherchent qu'est-ce qui peut être un quick win? Qu'est-ce que j'ai à gagner, justement, de consommer ce contenu-là ou cette page web-là? Mais c'est beaucoup tourné autour de l'aspect de la curiosité, de donner envie aux gens de découvrir. Donc, si c'est, en guillemets, structuré de façon pas assez, pas assez attractif, c'est sûr que là, ça risque d'être un peu moins visité. Mm-hmm. Puis, tu sais, je vais juste faire une petite parenthèse, par exemple, sur le podcast. Tu sais, j'ai moi aussi un podcast et c'est fascinant, bien, fascinant et décevant à la fois, de voir que si je fais des extraits vidéo ou des publications très, tu sais, pas frontales, mais dans le sens comme juste nouvel épisode justement de podcast oui. et je présente, c'est les contenus qui génèrent le moins d'engagement. Okay. Et tu te dis, ben là, j'ai passé tellement de temps à faire un épisode de podcast, j'ai reçu des invités, j'ai fait des extraits, mais pour vrai, puis je me suis dit, est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est la façon que je le fais? Puis je suis allée faire l'exercice, je suis allée voir sur d'autres comptes qui ont des podcasts et comparer le contenu régulier avec le contenu d'extrait de podcast. Et c'est la même chose pour tout le monde. Okay. Parce que je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que la façon qu'on amène nécessairement l'extrait, à moins d'être dans un extrait qui est très viral, justement, qui va faire réagir, bien souvent, c'est des contenus qui vont introduire un sujet. Donc, oui, il va avoir des effets sur le nombre d'écoutes quand on fait ce type de contenu-là, mais il va au moins être d'engagement direct sur la publication. Fait que, tu sais, c'est de voir comment on peut introduire le sujet autrement. Puis une des choses que j'ai testé aussi dans les derniers mois, c'est de dire, bien parfait, surtout par exemple pour des épisodes solo, j'ai pas d'extrait vidéo à présenter. Mm-hmm. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aborder la thématique, le sujet, mais dans une forme de carrousel plus éducatif aussi à la fois. Donc, je présente le sujet, je vais décortiquer, puis à la fin, je vais faire le pont en disant, bien, j'ai un nouvel épisode qui parle de ce sujet-là. Mm-hmm. Fait que c'est peut-être une idée que je lance comme ça, tu sais, ouais. que ce soit pour un article de blog, de juste dire, nouveau sur le blog, un article qui parle de ça, bien, comment vous pouvez introduire les thématiques, donner déjà de la valeur pour qu'on pense comme, hey, c'est super intéressant, j'ai le goût d'aller plus loin, j'ai le goût de me rendre à destination sur l'article.
C'est ça. Faut que la personne se dise, ah, ça, c'est pour moi ou si c'est pile ce dont j'ai besoin. Mais c'est un peu comme une bande-annonce pour un film.
Exact, et oui.
C'est ce qui va nous donner envie d'aller au cinéma et d'aller voir le film au complet. Là,
c'est ça. Juste l'affiche, des fois, c'est pas suffisant. Tu le sais, là, tu sais, un film, un film d'auteur, des fois, l'affiche est super belle, mais t'es comme, ça parle de quoi, je ne sais pas. Mais c'est la bande-annonce qui nous donne envie d'y aller. Fait que, tu sais, puis en termes de structure, ce que je peux dire, c'est que, tu sais, je te parlais de piquer la curiosité, puis de vraiment appuyer sur un levier qui va être plus motivationnel pour les gens qui vont dire, hey, j'ai vraiment le goût de cliquer ou j'ai le goût de tu sais, maintenant, on voit beaucoup les automatisations avec les mots-clés, tu sais, commande tel mot, puis je t'envoie le lien. Mais qu'est-ce qui donne envie aux gens de faire ça? C'est parce qu'ils ont compris le « what's in it for them ». Ils ont compris c'est quoi qu'ils allaient retirer, mais ça part vraiment par l'accroche. Tu sais, l'accroche, comment on introduit un sujet sans être, tu sais, ce qu'on appelle « clickbait », sans forcer trop, parce qu'on voit aussi l'extrême de cette tendance-là, là, d'avoir...
J'allais dire, c'est intéressant, mais une fois qu'on clique dessus, il n'y a plus rien après, là, c'est pas intéressant au final.
C'est ça l'affaire, c'est ça. Moi, j'ai toujours été dans l'optique de promettre moins, livrer plus, tu sais, pour créer des « wow » dans dans nos expériences. Là, c'est sûr que les réseaux sociaux nous amènent à être vraiment comme en compétition avec plein, tu sais, d'abondance de contenu. Donc, comment on se démarque souvent, c'est en piquant la curiosité, puis ça se fait avec une accroche, qu'elle soit, tu sais, visuelle, textuelle ou, tu sais, quand même contextuelle, si on veut. Mais je pense que des fois, c'est un peu trop, entre guillemets, platouné comment on introduit une publication. Puis un élément que je peux vous apporter, tu sais, pour ceux qui sont fans d'humour, par exemple, je sais pas si, tu sais, entre les humoristes plutôt francophones et américains ou anglophones, il y a vraiment un style très distinct entre les deux styles d'humour. Au niveau de la francophonie, souvent, les humoristes vont introduire un gag, tu sais, vont mettre en contexte, vont mettre la table et ensuite vont avoir un punch qui va nous faire rire, normalement, si c'est bien fait. Tandis qu'à l'inverse, les Anglais, eux, vont plutôt faire l'inverse. Ils vont puncher et ensuite amortir le gag.
Okay.
Donc, si j'ai envie de vous donner une inspiration ou un conseil par rapport à ça, c'est de dire, est-ce qu'on peut pas s'inspirer davantage du style plus anglo-saxon? C'est-à-dire, au lieu de mettre la table, mettre du contexte, c'est très scolaire le sujet amené, divisé, bien à la place, allons droit au but, suscitons déjà la curiosité et ensuite mettons la table. Puis tu sais, quand je dis mettre la table, c'est le cœur de votre publication qui est la valeur ajoutée finalement. Mm-hmm. Que ça vienne ensuite. Tu sais, il faudrait que la pépite soit dès le départ ou qu'elle me donne envie de décortiquer c'est quoi cette pépite-là. Fait que c'est plus dans la structure.
Surtout que les gens, souvent, n'ont pas le temps. Ils vont vite. Donc, c'est bien que le punch, effectivement, soit là dès le début pour les accrocher tout de suite.
Exactement. Puis bien sûr, d'avoir un appel à l'action, parce que des fois, c'est niaiseux, mais c'est quoi qu'on veut que les gens fassent après avoir lu notre publication? Faut leur dire, faut les indiquer.
On peut penser que c'est ils vont le faire de façon naturelle, mais non, des fois, il faut forcer un peu les choses, puis leur dire quoi faire pour qu'ils le fassent.
Oui, vraiment, c'est tout bête, mais des fois, tu sais, je parlais avec une cliente, puis elle me disait, tu sais, les gens commandent pas sur mes publications. Mais est-ce que tu leur as demandé de commenter? C'est niaiseux. Mais à partir du moment où on initie quelque chose, puis on demande aux gens de commenter, c'est pas dit que ça va être, ça va arriver, tu sais, tout le temps, à tout coup, puis ça va se bousculer au portillon, comme j'aime dire. Mais si tu le demandes pas, t'en as potentiellement pas de réponse, là, ou d'action.
Exact. Super. Bon, ben c'est assez complet quand même, beaucoup de choses à mettre en place, mais petit à petit, on peut effectivement améliorer ses publications. Donc, on oublie le lien dans la bio, lien de l'article. Enfin, s'il y a juste ça, je veux dire.
Ah oui, non, c'est ça. S'il y a juste ça, c'est sûr que si on veut que les gens cliquent sur le lien puis que, tu sais, dans la bio, s'il n'y a pas d'automatisation, parce que, tu sais, l'affaire avec les automatisations, c'est que souvent, ça vient avec des logiciels qui ont un coût. Puis quand les gens débutent, ben c'est pas futé de se prendre plein d'abonnements puis d'avoir un niveau de dépense super élevé. Fait que des fois, c'est pas tant à la portée. Mais j'ai des clients qui m'ont dit qu'ils faisaient le même genre d'appel à l'action. Oui. Demander de commenter pour envoyer la ressource, mais ils le faisaient manuellement. Fait que c'est sûr que les gens sont habitués à l'instantanéité de la chose. Mais peut-être qu'on peut le préciser. Tu sais, commente le mot, je t'envoie le lien vers mon article de blog. PS, c'est pas un robot, c'est moi qui vais te l'envoyer. Tu sais.
Oui, oui.
Ça peut même être drôle, tu sais, de
Ça change. Ou moins, ça fait changement un petit peu, ça peut nous distinguer aussi.
Exact, ouais.
OK. Alors, maintenant qu'on a vu les stratégies gratuites, est-ce que tu peux nous parler des stratégies payantes?
Oui, en fait, stratégies payantes, il y en a quand même beaucoup qui existent. Les plus connues, celles qu'on va plus remarquer, voir, c'est sûr que c'est tout ce qui est publicité Google, par exemple. Ça, c'est quand on cherche justement par des mots-clés. Ce qui est intéressant avec la pub Google, c'est que on a de la publicité, de l'affichage exactement au moment où la personne va faire une recherche et va avoir envie d'en savoir plus sur un sujet. Et pour moi, je trouve que c'est une publicité qui est un type de publicité qui est très puissant parce que justement, on est exactement au bon moment de, ben, tu sais, l'échelle de conscience, du moment où la personne est prête à potentiellement acheter ou est en train de préparer un achat. Ou là, je parle bien sûr de d'achat, mais ça peut être de trouver les ressources, de découvrir qu'est-ce qui existe sur tel sujet. Parce qu'on peut faire de la pub pas juste sur des choses payantes, dans le sens pas juste sur des choses à vendre, mais aussi sur nos ressources gratuites. Donc, je trouve que Google est très, très, très puissant à ce niveau-là. Là, c'est sûr que c'est une publicité qui est quand même assez onéreuse. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir un modèle, je dirais, rodé ou déjà avoir une structure en place justement pour que ça soit rentable. Parce que évidemment, c'est des coûts publicitaires. Puis quand on calcule si une publicité, elle est rentable ou pas, bien, c'est de savoir ça me coûte combien avoir un nouveau client, en fait, combien que je peux investir. Puis ce service-là, tu sais, c'est sûr que si on vend quelque chose à 10 $, probablement que la pub Google, c'est pas la bonne option parce qu'on va être pas mal à, tu sais, ça dépend des industries. Là, je suis pas une experte dans la pub Google, mais tu sais, les coûts par lead, ce qu'on appelle, là, les coûts par client, ben peuvent varier, tu sais, des fois de 5 à 15 $, puis même pour des services très spécialisés, très chers, ça peut monter des fois à 100 $ le lead. Donc, il faut que le reste de nos offres de services fassent du sens. Et si tu vends un site web à 5 000 $,
là, ça vaut la peine.
Potentiellement que c'est rentable. C'est ça. Mais si tu vends un cahier ou des produits qui sont pas très chers, ben là, c'est sûr que, à moins d'avoir une stratégie à long terme, de dire, ben sur ceux qui vont acheter ce produit moins cher-là, ben après ça, je vais pouvoir les amener vers une offre plus chère. Tu sais, ça, c'est des coûts à faire. Fait que ça, c'est pour Google. Ce qui est le fun, c'est vraiment parce que c'est directement lié aux intentions et aux termes de recherche. Donc, tu sais, on n'est pas en train de déranger ou d'interrompre quelqu'un. On est vraiment en train de le servir là au moment où il a besoin de nous, finalement. Ensuite, il y a tout ce qui est Meta, fait que bien sûr, Facebook, Instagram. Ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est des plateformes qui sont extrêmement consultées par plein de monde, des millions de personnes. Donc, il y a un bassin incroyable de gens qu'on peut cibler. Et l'intelligence artificielle et le ciblage qui est offert par Meta est de plus en plus peaufiné, précis, ce qui fait que c'est une machine de guerre de publicité, je trouve. T'sais, tout le monde, même ceux qui ne sont pas extrêmement présents, vont avoir un compte, vont consulter. Tu sais, je pense, je me sais plus des données exactes, mais tu sais, la majorité des gens vont ouvrir Facebook au moins une fois par jour. Là, fait qu'on a quand même, c'est rare des plateformes, tu sais, qui nous offrent autant de visibilité, disons, que Facebook. Ce qui est intéressant avec Facebook aussi, c'est qu'on a la possibilité de faire des campagnes et de cibler, en fait, un trafic froid ou un trafic chaud. Dans le fond, est-ce que c'est des gens qui nous connaissent déjà, avec lesquels ils ont déjà interagi, tu sais, avec notre contenu, ou c'est du trafic complètement froid, donc des gens qui nous connaissent pas, qui ont aucune idée de qu'est-ce qu'on fait. Et là, on peut vraiment décortiquer notre campagne, ajuster. Donc ça, c'est intéressant parce que on peut travailler sur plusieurs niveaux en même temps. Puis là, j'ai pas parlé de tout ce qui est remarketing, mais ça, c'est quelque chose qui peut être assez puissant quand on fait de la pub, c'est d'avoir une portion du budget qu'on alloue, au remarketing. Donc, d'être capable de recibler des gens qui ont vu nos ressources en ligne, qui ont vu notre site web, qui ont consulté notre profil, par exemple, et de venir, en fait, les chercher. Tu sais, des fois, quand on abandonne un panier quelque part sur une boutique, puis là, on voit les pubs, c'est souvent cette technique-là qui est utilisée de dire « Hey, oublie-nous pas, on existe, voici notre ressource, voici notre service. » Donc ça, c'est génial au niveau de la présence, parce qu'on le sait que de plus en plus, tout ce qui est contenu organique, on baisse de visibilité, on baisse le nombre de vues, de la portée dans l'organique. Donc, je pense que c'est important de voir, tu sais, est-ce que dans notre cas, ça vaut la peine? Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on a la possibilité de rentabiliser cet investissement-là? Fait que c'est aussi la même réflexion qu'il faut avoir que, comme je disais, pour Google, pardon, par rapport à combien ça nous coûte, combien ça vaut un client pour nous. Puis c'est sûr qu'au niveau de la pub, ben, tu sais, il existe plein de ressources en ligne, des bottins, des collaborations aussi qu'on peut faire pour être visible sur d'autres plateformes. Fait que, tu sais, chaque plateforme, dépendamment de la taille, ce sont des médias. Puis on peut payer pour que nos ressources soient hébergées là-dessus, qu'on soit référencés. Après ça, c'est d'évaluer, tu sais, la plupart de ces choses-là. Des fois, je trouve que le prix versus la réelle visibilité, moins intéressant.
C'est ça. Il faut s'assurer que là encore, on va avoir des retombées. Hein.
C'est ça le nerf de la guerre. T'sais, c'est un peu comme quand je travaillais en PME, on se faisait beaucoup, beaucoup solliciter pour tout ce qui est les magazines spécialisés. T'sais, on était dans le domaine de l'éducation, d'apprentissage. Il y a beaucoup de ressources qui existent, que ce soit des congrès, des magazines imprimés. Puis à un moment donné, c'est de dire, ben là, j'ai juste un budget, j'ai pas de X nombre de dollars par année pour de la pub. Où est-ce qu'on investit nos sous? Puis c'est vraiment, il y a aussi une part de d'essai-erreur là-dedans. Là. C'est-à-dire que des fois, tant que tu n'as pas essayé, tu ne sais pas si ça peut avoir du potentiel. Puis, de plus en plus aussi, on voit tout ce qui est micro-influenceurs. T'sais, on connaît les stratégies d'influenceurs. Souvent, ça coûte très cher. Fait que c'est plus pour des marques
oui.
vraiment établies. Mais tout ce qui est micro-influenceurs, des gens qui ont des plus petites communautés, mais qu'on peut avoir des partenariats puis qu'eux parlent de nous aussi. C'est l'idée d'avoir, en fait, plus de paires de yeux sur nos offres, sur nos contenus. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire en termes de stratégie payante, mais je pense que c'est ça. On sous-estime peut-être aussi les collaborations, le fait que d'autres parlent de nous, qu'on fait des croisements d'audience aussi. Là. Donc, c'est des stratégies qui sont souvent peut-être moins coûteuses même que payer Google ou Facebook puis les géants.
On peut peut-être commencer par là et ensuite aller vers...
Mais ça dépend des industries aussi, mais... Tu sais, comme mettons, moi, je suis pas sûre que je paierais nécessairement un micro-influenceur pour parler de mes services, mais peut-être faire des collaborations.
Il faut que ce soit pertinent aussi.
C'est ça.
Choisir la bonne personne, etc. C'est pas parler de nous pour parler pour nous. Si on choisit quelqu'un qui parle de nous, mais qui s'adresse pas aux bonnes personnes pour nous.
Exact. Exact.
Ça marchera pas.
Hein?
Oui. OK. Alors, je vais te poser la question que je pose à toutes mes invitées, tu ne vas pas y échapper, c'est est-ce qu'il y a une action concrète que tu peux nous donner pour commencer à amener des visiteurs sur notre site?
Oui, en fait, je pense que à la base, comme je disais, faire le pont entre nos réseaux sociaux et notre site web, c'est un bon point de départ. C'est de s'assurer que les gens qui sont sur nos plateformes réseaux sociaux puissent arriver facilement à se retrouver puis arriver à la bonne place. Ça, c'est niaiseux, là. Ça a l'air simple comme conseil, mais ça arrive souvent qu'on est vraiment perdu, soit qu'il y a trop de liens, on ne sait pas comment se retrouver, ou même encore quelqu'un qui va juste mettre le lien générique de son site web. Donc là, j'arrive sur la page d'accueil et à moi de retrouver où se trouvent les bonnes ressources.
Les informations.
Fait qu'on sous-estime cette portion-là, je pense, parce que les gens vont pas faire l'effort d'aller à la pêche, à moins d'être vraiment, vraiment hyper intéressés, là. Mais souvent, plus c'est compliqué, plus ça prend de clics pour s'y retrouver, plus on perd notre trafic, plus on perd nos gens. Donc, je pense que c'est de regarder comment je peux faire le plus possible de pont entre mes réseaux sociaux et mon site web. Est-ce qu'il y a moyen, justement, créer un arbre à lien peut-être plus simple ou simplifié ou peut-être avec un aménagement à la limite qui va être moins perdu? Tu sais, exemple, là, si tu as 10 outils gratuits dans ton environnement, dans ton écosystème, bien là, c'est sûr que s'ils sont tous listés ensemble à côté de tous les liens vers ton site web, c'est peut-être un peu compliqué. Y a-t-il moyen de faire des familles d'outils? Est-ce que tu peux mettre plusieurs outils sur une même page pour qu'au moins il y ait juste comme une action, un clic pour arriver à la bonne place? Fait que je dirais que ça, c'est pas mal mon conseil au niveau du trafic. Puis de pas penser, de pas oublier non plus l'inverse aussi. Comment, une fois que les gens nous trouvent, parce que mettons qu'on a bien travaillé notre SEO, bien comment qu'on fait pour que les gens qui arrivent sur notre page web, notre site web, puissent rapidement aller nous suivre aussi sur les réseaux sociaux? Parce que tu sais comment le site web, à un moment donné, on oublie là, qu'il existe. Là, si on...
Oui, mais c'est ça, c'est pour les garder dans notre univers, en fait.
Exactement, exactement.
OK. Très bien. Mais c'est vrai que par rapport aux arbres à liens, on voit beaucoup de choses. Il y a des arbres à liens très courts, d'autres qui sont très, très longs.
Oui.
Puis ben après ça, il y en a qui n'ont pas d'arbres à liens non plus, qui ont juste un lien direct vers leur site web. Mais comme tu dis, on arrive sur la page d'accueil souvent et il faut chercher où il est, où l'outil gratuit, etc.
C'est ça. Puis c'est pas un lien, c'est pas un conseil universel. Tu sais, je peux pas te dire, OK, ben max 4 liens sur ton arbre à liens parce que ça va dépendre vraiment de l'environnement. Oui. Mais au moins, est-ce que quelqu'un qui arrive est capable, tu sais, mettons qu'on parle sur nos réseaux sociaux d'un article de blog, est-ce que rapidement la personne qui a l'intérêt d'aller le lire peut y aller en moins de clics possible, tu sais, facilement, oui.
Oui. Ben, merci beaucoup pour ces conseils, puis je précise que tu vas en donner d'autres aux abonnés de mon infolettre, sont exclusifs. Alors, si tu n'es pas abonné, ben, tu peux le faire en t'inscrivant avec le lien qui est dans la description de l'épisode. Puis, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur tes services.
Oui, bien en fait, en termes de réseaux sociaux, ma plateforme favorite, c'est vraiment Instagram. Donc, si vous voulez venir me retrouver là, vraiment en mon nom, là, @Mélanie_Allé. Sinon, bien, sur mon site web, hein, on parlait de web,
oui.
MélanieAllé.com. Vous allez retrouver toutes les ressources possibles que j'ai. J'ai aussi un podcast, donc, si vous voulez aussi m'entendre sur d'autres stratégies puis d'autres éléments qui touchent au marketing de contenu puis à la stratégie, ben c'est rempli. Je pense que j'en ai à 161 épisodes, pour être exact.
Puis j'invite vraiment tout le monde à aller l'écouter, ton podcast 180 degrés, mais je vais mettre le lien, puis tous les autres liens dans la description de l'épisode, évidemment, mais j'invite vraiment les gens à écouter ton podcast. C'est agréable à écouter, puis c'est plein de valeur. Donc vraiment, moi je l'écoute, puis j'aime vraiment ça l'écouter, puis j'encourage tout le monde à le faire, parce que c'est vraiment de bons conseils.
Merci, c'est vraiment gentil.
Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir partagé toutes ces stratégies avec nous ce matin. J'espère que les gens ont pris des notes puis qu'ils vont pouvoir y retourner de temps en temps pour mettre en place une stratégie petit à petit.
Oui, vraiment. Je pense qu'on a tout à gagner de réfléchir un petit peu plus stratégiquement là, notre présence en ligne.
Oui, il faut être stratégique pour amener des gens sur notre site, pas attendre qu'ils arrivent tout seuls. Ouais.
Par magie.
Encore merci, puis je te dis à bientôt. Bye bye.
Merci.